Il était une fois la fille d'un serpent mythique tout droit sorti de l'océan qui rencontra le fils d'un brahman ayant traversé les mers et ensemble, ils donnèrent des sens à un alphabet entrelacé, une langue, une culture, un peuple et un pays.
Pascal Paradou.
Une histoire mythologique pour raconter le début de la civilisation khmère et aujourd'hui le début de la nouvelle année pour les Cambodgiennes et Cambodgiens de par le monde. Bonjour Jean-Baptiste Fou.
Bonjour.
Et bonne année.
Bonne année.
Comment on dit ça en khmère ? Oh, je vois que c'est compliqué. Acteur, metteur en scène, cinéaste, chanteur, auteur, vous signez deux livres en ce début d'année khmer. La peau hors du placard, un récit autobiographique sous-titré « Asiatique et gay, une vie de lutte » et un autre texte sur la culture khmer, ou plus précisément son vocabulaire, 80 mots du Cambodge. Est-ce que 80 mots suffisent à raconter un pays ?
Ah non. Mais là, il ne s'agissait pas de raconter le pays. Ce n'est pas un guide de voyage, ce n'est pas un dictionnaire. Je ne cherche pas à être exhaustif, mais plutôt à raconter mon parcours et mon histoire avec ce pays-là. Et c'est vrai que 80 mots, je trouve que c'était un chiffre qui était suffisant, en tout cas pour moi, pour pouvoir aller dans différents domaines, personnels, familiales, professionnels, amoureux, enfin voilà, raconter tout plein de petites histoires.
Donc c'est très subjectif.
Ah oui, complètement.
Mais ça donne quand même une idée de ce qu'est ce pays et cette culture.
Oui, pour moi, c'était un peu ça. L'intérêt, c'était pas simplement parler de moi et de mon histoire, mais de me servir des mots un peu comme prétexte pour raconter aussi la culture du pays, enfin différentes choses, par exemple la danse, parce que j'ai appris la danse classique cambodgienne, le théâtre, parce que j'ai travaillé également en tant que metteur en scène sur place, dans une ONG qui favorisait les arts vivants. Donc voilà, c'était des portes d'entrée, disons, pour ensuite aborder d'autres choses, la petite histoire et la grande histoire, parfois aussi pour parler du génocide Khmer Rouge ou des choses un peu plus dramatiques.
Un mot pour les touristes, Krama. Oui. Par exemple, qui est ce foulard à petits carreaux que tout touriste rapporte du Cambodge. C'est une entrée dans votre livre et il y a toute une histoire à raconter sur ce tissu très symbolique et très folklorique parfois.
Oui, tout à fait. Donc le krama, oui, c'est le, on va dire, l'écharpe traditionnelle cambodgienne. Nous, on appelle ça un peu notre couteau suisse, parce qu'on s'en sert pas simplement comme écharpe, mais pour tout un tas d'utilisations. Et donc voilà, je le raconte. Mais c'est vrai que c'est pas... j'en fais pas forcément des fiches, c'est-à-dire que je raconte pas systématiquement l'histoire du mot ou l'histoire de l'objet ou son contexte, mais comment ce mot-là ou cet objet-là est rentré dans mon histoire à moi. Et voilà, je raconte un peu les deux.
Et en l'occurrence, comment à 25 ans, vous découvrez ce pays qui n'est pas du tout votre pays de naissance, puisque vous êtes né en France, et il vous faut absolument ce foulard, ce krama, pour avoir le sentiment d'appartenir à ce pays. Alors, c'est vrai que vous avez, Jean-Baptiste Fou, une histoire assez singulière avec à la fois ce pays et la langue cambodgienne, parce que vous l'avez apprise très tardivement.
Tout à fait, et je ne la maîtrise encore toujours pas parfaitement, il faut le dire. Malgré le fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les 80 mots du Cambodge », c'est ça qui est un peu ironique, mais je ne suis pas totalement bilingue. Mais oui, en fait, mes parents viennent du Cambodge, tous les deux. Ce sont des Chinois du Cambodge. Donc, ils sont nés là-bas, ils ont été éduqués là-bas. Ils sont arrivés en France avant la chute de Phnom Penh, donc en 75. Et moi, je suis né ici avec mes trois autres frères et sœurs. Mais le Cambodge, je l'ai découvert très tard, comme vous disiez, à l'âge de 25 ans, la première fois que j'y étais. Et d'ailleurs, quand j'ai mis le pied au Cambodge pour la première fois, je ne savais absolument rien du pays, ni même rien de sa langue non plus. Je ne savais même pas dire bonjour, au revoir. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. Après, voilà, je suis retourné à l'INALCO, j'ai pris des cours, j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts à essayer de dompter cette langue et j'y suis encore.
Pourquoi vos parents ne vous apprennent pas cette langue ?
C'est une très bonne question dont je n'ai pas totalement la réponse, mais je pense que il y a plusieurs choses. D'une part, il y a leur héritage chinois, je pense, qui était plus fort peut-être que l'héritage khmer qui voulait nous transmettre. Donc, nous, on parlait à la maison le dialecte de ma mère qui s'appelle le tétiou. Donc, le tétiou ou le chaochonghua en mandarin, donc c'est un dialecte, enfin, dit dialecte, disons de langue, du sud de la Chine, de la région de Canton. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi chez nous, ils ont décidé de nous transmettre cette langue-là et pas une autre. Mais je pense que c'est aussi lié au... tout simplement à l'histoire. Enfin, voilà, on peut peut-être parler de l'histoire un peu tragique du Cambodge et du génocide Khmer Rouge. Il y avait, j'allais dire, une douleur ou un stigmate aussi associé à cette langue.
Donc un silence.
Tout à fait.
La langue était tue parce que la période traversée avait été tragique. Il faut rappeler quand même que le génocide des Khmer Rouges, c'est à peu près 2 millions de morts. Il y a un débat sur les chiffres, c'est 20% de la population cambodgienne qui a été exterminée.
Oui, tout à fait. C'est assez tragique et c'est dans une période très courte, hein, sur 4 ans à peine. Donc oui, je pense qu'il y a, encore quelque chose de très fort. Pour nous, parce que ça s'est fini en 79, donc c'est encore très récent.
Et vos parents partent après, enfin, ou juste avant?
Eux avant, voilà. Eux sont partis avant, mais par contre, leurs frères et sœurs et leurs parents n'ont pas eu cette chance-là. Donc la plupart, soit ont péri durant le génocide, ou ont survécu, et puis ont ensuite émigré dans d'autres pays à la suite.
Donc vous n'apprenez pas le khmer, vos parents ne vous transmettent pas cette langue, qui est quand même leur langue au quotidien, au moins sans être une langue maternelle. Pourtant, dans ce livre, Les 80 mots du Cambodge, Jean-Baptiste Fou, le premier que vous choisissez, c'est un mot de l'enfance, et c'est un gros mot, Choy Mei. Essaye au Khmer.
Alors, on dit Choy Mai.
Choy Mai, bon.
Voilà, bon, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent, mais bon, ça veut dire en gros nique ta mère.
Ah ben bravo.
Mais voilà, moi je trouvais ça drôle parce que moi je ne savais même pas que c'était un mot en Khmer. J'entendais ça, mon père dire ça quand il s'énervait, et moi je pensais que c'était du chinois, parce que comme il nous parlait en chinois, pour moi c'était du chinois. Mais en fait, non, c'est à l'âge adulte que j'ai compris que c'était du Khmer et j'ai compris en plus sa signification. C'est le premier mot qui introduit le livre. Enfin, il fait partie de ce chapitre-là, mais en fait, il s'agit du mot agnagnai, qui veut dire bordel ou foutoir. Et donc ça, c'est un mot que disait ma mère tout le temps. Agnagnai, comme agnagnai. Enfin, ça veut dire arrêter de foutre le bordel. Et donc, moi, pareil, je savais pas que c'était un mot khmer jusqu'à ce que je l'entende en arrivant en Cambodge.
Donc, ce sont vos premiers mots khmer que vous gardez en mémoire. Mmh. Et puis, il y a cette phrase, la première aussi que vous êtes obligé d'apprendre. « Cette mangue est bonne ». Alors là, on dit comment ?« Cette mangue est bonne ». C'est la base. Hein.
C'est la base. « Svai ni chngang na ».
Et c'est très compliqué.
Ben, essayez.
Non. Nous allons disserter un peu plus tard sur la mangue et la meilleure façon de le savourer. Mais d'abord, on va faire un pas de côté. C'est ailleurs. Ailleurs à Abidjan avec Abdraman Kamaté. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général du MASA, le marché des arts du spectacle africain, qui a ouvert ses portes ce week-end dans la capitale ivoirienne. Alors, ce n'est pas un festival, c'est vraiment un marché. Combien de compagnies sont présentes? Combien de compagnies vous avez sélectionnées?
Il y aura un peu de bruit dans cette interview parce que je suis dans la cour du Palais de la Culture à Abidjan et le palais grouille de monde. Donc, vous percevrez l'ambiance qui prévaut à Abidjan. Pour cette édition, nous avons 33 groupes qui ont été sélectionnés pour montrer leur savoir-faire au public d'Abidjan et au public du monde entier, puisque ce marché est retransmis sur la chaîne nationale ivoirienne, donc pour que les communautés extérieures puissent également y accéder.
Quand vous
dites... C'est un festival aussi, si vous permettez. Effectivement, c'est un marché comme son nom l'indique, mais c'est aussi un festival. Nous avons les deux pendants dans cette manifestation.
Vous dites 33 groupes, c'est-à-dire 33 compagnies? Non, beaucoup plus.
Oui, si j'additionne le Massa Marché et le Massa Festival, nous sommes à 69 groupes pour 300 spectacles prévus donc, au cours de cette semaine à Abidjan.
Sur quels critères ces artistes sont sélectionnés?
Alors, la sélection est faite par un comité artistique international composé de 22 membres qui proviennent de plusieurs pays, tant américains, asiatiques, africains qu'européens. Et donc, ces jurys ou ce comité s'est réuni par discipline et choisit donc les groupes les plus performants, ceux qui ont un propos artistique qui tient la route mais aussi les groupes qui sont en capacité de faire une tournée internationale, parce que la vocation de cette sélection, au-delà de tout, est de permettre donc à ces artistes-là de décrocher des dates, de signer des contrats et de montrer donc leur savoir-faire sur différentes scènes.
Donc il y a à la fois des grands noms et des découvertes à faire au Massa.
Exactement. Le Massa se veut un tremplin, parce que nous savons que beaucoup d'artistes africains sont passés par là à leur début. Et aujourd'hui, font la fierté donc, du continent. Et donc, nous souhaitons continuer à rester dans cette dynamique-là d'accompagnement de l'émergence. Bien évidemment, quelques noms qui intéressent, qui sonnent, et de sorte que la manifestation puisse aussi intéresser le grand public.
Alors, le Massa a lieu tous les 2 ans. C'est la 13e édition cette année. Est-ce que d'une édition à l'autre, vous voyez une évolution des pratiques ou des thématiques, des sensibilités ?
Absolument. Comme partout ailleurs, la créativité africaine est en évolution. Elle est l'expression donc, du temps, de l'instant. Et donc, évidemment, cette créativité tient compte aujourd'hui, par exemple, de l'apport du numérique qui bouleverse d'une certaine façon la création, mais aussi la diffusion. Donc, l'évolution est clairement visible parce que l'Afrique est le monde. Et le monde se retrouve en Afrique. Et donc, évidemment, tout ce que nous pouvons constater ailleurs peut se constater sur le continent, parce que nos créateurs se sont appropriés donc les nouveaux outils, mais sont aussi de plus en plus présents sur toutes les scènes où il faut être.
Merci beaucoup, Abdramane Kamaté. Le Massa se déroule donc à Abidjan jusqu'au 20 avril.
Merci à vous.
C'est que tu as chaud, que l'été fut crescendo. Je te laisse mon colis pour soigner tes yeux sans eau, nourrir ce cœur aride d'un petit peu de salive et d'un zeste de mélo.
Je te promets sans colère, tu me verras plus retenir tous les fluides que j'ai en stock, les larmes de galère. Je te crache mes efforts qui s'écoulent tels des saphirs sur ton corps encore amer.
Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lassifs de nos salives jusqu'en est dégoûté. Quand je t'embrasse, je sens le business de nos fluides qui s'éclaboussent sur le doux contour de nos bouches toujours mouillées.
Sentir le désir de nos odeurs si humides, je t'échange avec plaisir la bave perdue de mon cœur, tout le liquide et la sueur comme retenu pendant des heures que j'ai nommé élixir. Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lascifs de nos salives jusqu'en est dégoûté. Quand je t'embrasse, le business de nos fluides qui s'éclaboussent sur le doux contour de nos bouches toujours mouillées.
Eau de vie, Eddy de Préto sur RFI, en concert à l'Olympia ce soir et demain, en duo ici avec Juliette Armanet. Et on reprend la leçon de Khmer avec Jean-Baptiste Fou, auteur des 80 mots du Cambodge, langue que vous avez apprise donc à l'âge adulte pour vous réapproprier votre identité. C'est une langue qui est quand même particulièrement difficile, et déjà l'alphabet est très compliqué.
Oui, alors déjà, elle est difficile à prononcer. Alors, bien que ce ne soit pas une langue tonale, contrairement aux autres langues de la région, le vietnamien, le lao, le thaï, le chinois, donc le khmer n'a pas de ton, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus facile pour autant. Parce que, par exemple, au lieu d'avoir des tons, on a beaucoup de voyelles.
20.
Voilà, 20.
En français, il y en a 6. Voilà, donc alors,
imaginez une vingtaine de voyelles. Et puis, pour l'alphabet, comme vous disiez, il y a à peu près 74 lettres. Et d'ailleurs, ça figure dans le Guinness des records comme étant l'alphabet le plus long au monde. Et donc, voilà, pour apprendre à le lire, c'est très compliqué. C'est un vrai casse-tête.
Et puis, il y a parfois 3-4 consonnes les unes à côté des autres. Et ça, c'est aussi un casse-tête.
Voilà, il y a des successions de consonnes. Ça, c'est particulier à la langue cambodgienne. Il y a, je sais pas, 4-5 consonnes avant d'arriver à une voyelle. Ça fait des parfois avant de... Voilà.
Mais comment raconter cette immensité, finalement, de la langue? Est-ce que c'est à cause du fameux Naja aurait créé le peuple et la culture khmer?
Alors, ça, c'est une légende. Le Nagas, le mythe que vous citiez en début d'émission. Donc, les Cambodgiens aiment bien imaginer que voilà, la naissance du Cambodge, c'est l'union mythique entre donc, la fille du roi Naga, qui s'appelle Mera, et Kampu, qui est un prince venu d'Inde. Leur union aurait donné Kampu Mera le peuple Khmer, le Cambodge, le Kampucha, qui voudrait dire les enfants de Kampu. Mais ça, c'est l'interprétation, disons, poétique. Les linguistes... rejette cette étymologie. Et pour Michel Anthem, d'ailleurs, qui a contribué à ce livre, Michel Anthem, qui est le directeur des études Khmer à l'INALCO, donc lui, il a apporté plutôt l'aspect plus scientifique, parce que bon, moi, je reste sur quelque chose d'assez personnel, mais comme on parle de langue et de linguistique, il a aussi fallu...
Il faut être sérieux.
Exactement, il faut avoir les deux, quand même, les deux côtés.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un locuteur, donc il y a l'usage de la langue, et vous racontez, par exemple, comment c'est compliqué de vous adresser à des gens d'âges différents parce que, justement, on ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui est plus jeune ou plus vieux ou beaucoup plus vieux. Par exemple, j'ai découvert que tous les hommes âgés étaient des poux. Ben, c'est sympa.
Oui. Alors, poux, qui veut dire oncle. Oui, parce qu'au Cambodge, je pense comme d'autres, dans d'autres pays d'Asie, on ne s'adresse pas à quelqu'un lui disant « tu » ou « vous ». On s'adresse à elle en fonction d'un lien de parenté supposé. Donc, même des inconnus, et surtout des inconnus, on va dire ma tante, mon frère, mon neveu, ma grand-mère. Et donc, lorsqu'on rencontre quelqu'un, il faut tout de suite deviner son âge.
Alors, en 1985, vous étiez tout petit. Je ne sais pas comment on dit quand on est tout petit, un enfant. Le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine donne un spectacle intitulé « L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge ». C'est sur un texte d'Hélène Cixous qui, en étant française, a fait un voyage au Cambodge, mais aussi dans la langue khmer.
J'ai besoin de voyager d'abord, justement dans mes rêves, dans mes fantasmes et dans les langues. Et donc, par exemple, le voyage vers le Cambodge, rien n'est parti avant moi, parce que moi, je voulais avoir déjà écrit une partie du texte, de la pièce, parce que je me disais, après, la réalité va être tellement puissante, elle va s'abattre comme un dragon sur moi, et elle sera tellement plus grande que moi que je ne pourrai plus du tout prendre mes petits mots et me mesurer avec ça.
Jean-Baptiste Fou, est-ce que vous avez eu aussi le sentiment que la réalité était plus grande quand vous débarquez dans ce pays, votre pays, c'est celui qui est devenu votre pays, puisque vous vivez maintenant au Cambodge. Est-ce que c'était le grand saut?
C'était un grand saut, mais qui s'est fait par petits pas. Disons ça comme ça, parce que moi, je découvre le Cambodge à l'âge de 25 ans en tant que touriste. Et puis, je n'avais pas d'envie particulière de m'y installer ou même d'explorer. Pour moi, c'était, voilà, allons voir le pays de mes parents et puis passer à autre chose. Mais il se trouve qu'après ce premier voyage, il y a eu une étincelle qui s'est produite. Et après, j'ai fait plusieurs voyages et j'ai décidé, en fait, à l'âge de, je crois, 27 ou 28 ans, je travaillais à Singapour, donc ce n'était pas très loin du Cambodge et j'y allais souvent pour me ressourcer. Et là, je tombe sur une audition d'une comédie musicale. À l'époque, à Singapour, je travaillais dans la banque d'investissement chez la BNP. Et quand je tombe sur cette annonce au Cambodge, ils recherchent des chanteurs, des comédiens, des danseurs. Je me dis, pourquoi pas, je chante sous ma douche. Tentons l'expérience. Ça a marché. Ils me donnent un rôle et je démissionne de la banque pour me lancer dans la comédie musicale au Cambodge. Et après ça, en fait, ça m'a ouvert vraiment un champ d'horizon que je n'entrevoyais même pas sur le pays. Et puis d'un autre côté, c'est aussi entrevoir toute une partie de l'histoire qui, moi, jusqu'à maintenant, ne m'avait pas intéressé. Et c'est en justement interrogeant des personnes sur leur parcours, sur ce qu'ils avaient vécu, traversé, que là, je me rends compte aussi du parcours que mes parents avaient vécu et dont je ne savais rien auparavant.
Donc, c'est quand même un grand saut et un autre monde que vous découvrez et que l'on découvre aussi en lisant ce livre, Les 80 mots du Cambodge, avec cette impression que la langue khmère n'a aucun lien avec le français, comme s'il n'y avait aucune trace de la langue du colonisateur. Or, les Français sont restés quand même un peu plus d'un siècle.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant que vous dites ça parce que je me suis posé la question d'inclure des mots empruntés au français dans le livre. J'en mentionne un, peut-être remorque, le tuk-tuk, on dit remorque, qui vient de la remorque. Mais effectivement, il y a beaucoup de mots qui sont restés. Après, j'aurais pu en mettre d'autres, mais comme je n'avais pas de lien particulier ou d'histoire particulière à raconter, à part dire, voilà, ça vient du français, bon, ça ne racontait pas grand-chose pour moi. Si, il y a un mot que je trouvais intéressant, c'était loi, qui veut dire argent au Cambodge. Et dans les dictionnaires, ils disent que c'est un mot qui viendrait du louis d'or. Louis. Et ça colle pas tellement parce qu'on se dit louis d'or, c'est pas tellement au niveau des dates.
Oui, c'est plus tout à fait la période.
Ça serait un peu étrange. Et en fait, en faisant des recherches et en interrogeant notamment Michel Anthème dessus, en fait, l'étymologie ne viendrait pas du louis d'or, mais en fait d'un mot néerlandais qui est rentré dans la langue malaise, qui a été transporté par les Chinois d'outre-mer, notamment de Penang et de Malacca, et qui arrivait comme ça par les Chinois du Cambodge à la langue khmère. Alors, c'est tout un autre voyage, mais en tout cas, voilà, c'est aussi intéressant.
Quel rapport les Cambodgiens de votre génération entretiennent avec cette période, justement, de la colonisation? Il y a le trauma du génocide, qui est encore très, très marquant, puisque c'est souvent les parents. Mais la colonisation, comment vous ressentez ça?
Au Cambodge, en fait, la jeunesse a pas tellement d'avis sur la colonisation ou sur l'empreinte qu'auraient laissé les Français. On me pose souvent la question, en fait, est-ce que le français est toujours parlé, par exemple, au Cambodge? Mais en fait, plus tellement, l'influence, elle est vraiment minime aujourd'hui. C'est l'anglais qui prédomine, et puis maintenant avec le chinois, et puis d'autres langues asiatiques, le coréen, le japonais. Ceux qui continuent à apprendre le français le font plutôt pour des perspectives d'études ici, dans les sciences ou en médecine, en pharmacie. Mais voilà, l'influence ou même les souvenirs, ça n'a pas laissé quelque chose de très fort auprès de la jeunesse.
Alors, si on parle de francophonie, il faut évoquer la figure de Sihanouk, qui fut l'un des pères fondateurs de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui fut désigné roi en 1941, donc sous le protectorat français, jusqu'en 2004, date de son abdication en faveur de son fils.
La monarchie cambodgienne a été déclarée élective depuis quelques siècles et c'est ainsi que, à la mort de mon grand-père, le roi Monivong, en 1941, la France et le gouvernement du Cambodge ont décidé ensemble de choisir un petit prince qui paraissait être gentil, malléable, et qui était éduqué par les Français à Saigon, dans un lycée français. Alors, la France pensait que Sihanouk serait un roi non seulement francophile, mais malléable, très souple pour le colonialisme français. Le fait est que je n'ai jamais été francophobe et j'ai obtenu de la France en 1953 l'indépendance totale pour mon pays sans verser une goutte de sang français ou cambodgien. Et après l'acquisition de l'indépendance, la langue française est restée notre seconde langue officielle. Nos lois étaient faites par notre Parlement en khmer et en français.
Norodom Sihanouk, les temps ont changé, Jean-Baptiste Fou. Ça vous faisait sourire d'entendre votre ancien souverain?
Oui, parce que c'est un personnage. C'est vraiment J'ai pas d'autre mot pour le qualifier parce que c'est une figure tellement, tellement importante qui reste encore adorée et chérie pour la plupart des personnes au Cambodge.
Alors, vous parlez de théâtre. Dans votre livre 80 mots du Cambodge, vous racontez la création en Khmer aussi de votre pièce de théâtre, Cambodge me voici, dont vous avez été obligé un peu de modifier le texte. Alors ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce que c'est un sujet sensible qui parle de la corruption. Et bien sûr, c'est une question plus politique que linguistique, mais quand même, les équivalences sont assez drôles. Pour dire sortir quelques billets, c'est-à-dire corrompre quelqu'un, vous traduisez par offrir le thé.
Oui, tout à fait. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de cet exercice-là, parce que on pose souvent la question de la censure au Cambodge, étant donné que je vis là-bas, je travaille là-bas, je crée mes œuvres au Cambodge. Est-ce qu'on peut parler de tout, comment, etc. Il n'y a pas de censure officielle, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas un texte qui dit, voilà, vous n'avez pas le droit de parler de tel ou tel sujet. Il n'y a plus, parce que ça avait été le cas à un certain moment, de permission à avoir du ministère de la Culture, un visa à obtenir pour pouvoir faire représenter des spectacles. Et donc, il y a une certaine liberté en apparence. Sauf que, dans les faits, nous, on sait en tant qu'artistes qu'il y a des sujets sensibles. Mais pour autant, on ne va pas s'auto-censurer. Donc, comme vous le disiez dans mon texte, on trouve d'autres façons de le dire.
Mais tout le monde comprend.
Exactement.
Donc, offrir le thé, c'est corrompre quelqu'un.
Bah oui.
Bah oui. Est-ce qu'on peut parler de tout ? Alors, en parallèle de ce livre, Les 80 mots du Cambodge, Jean-Baptiste Fou, vous publiez un récit autobiographique où vous parlez d'une lutte en tant qu'asiatique et en tant qu'homosexuel, donc d'un double racisme d'une certaine façon. Est-ce que ce livre-là, qui est très personnel aussi et qui raconte vraiment votre expérience de jeune adolescent et d'homme en France essentiellement, est-ce que ce livre-là peut être lu au Cambodge ? Est-ce qu'il peut être traduit en Khmer ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, les droits ont été achetés. Il va exister en Khmer. Il va sûrement sortir cette année ou l'année prochaine. Voilà, cette question-là de la censure n'est pas applicable. Même sur des sujets de société comme cela, on pourrait imaginer qu'au Cambodge...
Il n'y a aucun interdit, aucune censure sur l'homosexualité au Cambodge.
Du tout. Il y a une tolérance. En fait, il n'y a pas ni de loi discriminatoire, ni de loi pour le mariage pour homosexuel ou pour l'adoption. Et entre les deux, tout est permis.
Asiatique et gay, ce sont les deux pans de votre identité, deux des pans de votre identité.
Pas que. D'ailleurs, ce livre-là intervient il y a une quinzaine d'années après que j'ai commencé ma carrière artistique. Donc, il y a plein d'autres choses que j'avais envie d'explorer dans le thème de l'identité. Et il se trouve que la sexualité en fait partie. On parle de plus en plus de violences systémiques, d'intersectionnalité. Ces questions qui mettent mal à l'aise en France, hein, les questions raciales qui font toujours un petit peu hérisser les poils parce qu'on se dit « Ah, la race, ça n'existe pas » ou « Ça ne devrait pas exister ». Oui, sauf que ça produit quand même des effets. Concrètement, là, dans la vie amoureuse, dans les rapports de séduction, on a beau prétendre que ça n'existe pas, lorsqu'on est systématiquement rejeté en disant « Je ne suis pas intéressé par les Asiatiques », c'est que les gens voient bien quelque chose et qu'ils y mettent en plus une connotation négative, comme étant, en particulier pour les hommes asiatiques, quelque chose de pas désirable. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu aborder dans ce livre, c'est justement comment ces deux identités se croisent et comment elles sont perçues par l'extérieur.
Et ces identités sont source de souffrance, parce que d'un côté, on vous dit que vous êtes une petite crevette, et de l'autre côté, un gros PD. Donc il y a un petit problème de cohérence, mais,
oui,
mais dans les deux cas, c'est de l'insulte et de la discrimination.
Tout à fait, c'est pour ça que je parle de ce qui peut être vécu comme une double oppression, c'est-à-dire de l'homophobie d'une part, dans un monde qui est le nôtre, qui est un monde qui reste hétéronormé, où l'homophobie continue à exister, quand même il y a des avancées sociales, ça n'efface pas les actes et les agressions homophobes. Et de l'autre côté, à l'intérieur d'une communauté qui, on pourrait s'imaginer, est notre communauté dans laquelle on va trouver refuge, la communauté gay, en fait, il y a d'autres types de violences, d'autres types de discriminations. Et là, notamment le racisme ou la discrimination raciale. Donc voilà, c'est cette difficulté-là à laquelle j'ai eu affaire en étant adolescent, mes premières années en tant qu'adulte et dans la vie sentimentale. Et aujourd'hui, je continue à essayer de naviguer tant bien que mal avec tout ça.
Merci Jean-Baptiste Fou. 80 mots du Cambodge est édité chez l'Asiathèque et votre récit La peau hors du placard au Seuil. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. À demain.